chaque soir en général ou chaque matin quand la radio me réveille, c'est vers les nouvelles. Puis je me lève après que j'aie écouté la météo du matin. Faites-vous ça, vous autres? Et là, j'écoute la météo, puis là, ça me motive ou ça me désappointe habituellement. Là, mais on commence souvent par la météo. Je regarde Météo Média, puis ça me dit le nombre d'heures d'ensoleillement qu'il y a. Puis là, tu sais, c'est le fun. Ou à quelle heure que le soleil se lève, puis à quelle heure que le soleil se couche. Je sais pas s'il y a 2000 ans, les gens s'intéressaient tellement à ça, mais nous autres, moi, je m'en intéresse beaucoup. Ça rapetisse les journées. Vous avez remarqué, l'automne arrive, là. On place beaucoup d'importance sur la lumière du soleil parce que, évidemment, la lumière a des bienfaits indéniables sur nos vies. Imaginez-vous, sans lumière, il n'y aurait aucune perception visuelle du monde. Des belles photos que vous voyez, la nature. Sans la lumière, on pourrait pas les voir, les contempler. Les horreurs aussi, là. Des fois, on voit, puis il y a pas toutes les. Des fois, on a des yeux, puis on n'aimerait pas en avoir, là. Mais c'est rare en général. On a une perception visuelle, ça nous fait du bien. Sans lumière, toute la nature périrait. Il n'y aurait pas de verdure. Il n'y aurait pas de croissance. Sans lumière, il n'y aurait pas de chaleur. Il y aurait très peu de confort. Sans lumière, on ne pourrait pas voir les obstacles en avançant. Puis je m'imagine que sans lumière, notre humeur en prendrait un coup. Je ne sais pas si vous connaissez Hugo et Lynn Etier. Ce sont de nos missionnaires que nous avons à Rivière-du-Loup. Mais Lynn est aveugle. Et c'est quand je la vois, je suis rempli de joie de voir une personne qui ne peut pas voir. Puis qui, en même temps, reflète la lumière de Jésus. C'est formidable. Je ne sais pas si ça vous touche quand vous voyez des gens à canne blanche qui ont envie de traverser la rue. Puis vous arrêtez, puis vous voulez leur dire « passe, passe ». Là, ils ne voient pas. Ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. J'espère que vous aidez des aveugles quand vous en avez l'occasion. Parce que Dieu nous donne des yeux, puis c'est un privilège merveilleux. Mais la lumière, c'est aussi un très important concept spirituel. La Bible, elle utilise beaucoup le concept de lumière dans son sens spirituel. Elle présente la lumière en général comme la faveur de Dieu. On lisait cette semaine à notre réunion de prière, et j'espère que vous avez pris le temps à la réunion de prière. C'était un bon groupe mercredi, puis on avait de la joie. On regardait le psaume 4. Et David, au milieu de ses détresses, il disait au Seigneur, « Qui nous fera voir le bonheur? » Et c'était quoi sa réponse? « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Comment est-ce que je vais être heureux? « Lève sur nous la lumière de ta face, Seigneur, puis on aura ta faveur, on va pouvoir avancer. » La Bible affirme que Dieu est lumière. Quand lui, il n'y a pas de ténèbres. La Bible dit qu'elle place souvent en opposition la lumière avec les ténèbres. Elle dit que les croyants sont des enfants de lumière qui marchent dans la lumière. Elle dit qu'ils ne travaillent pas le soir, ça. C'est ça que ça veut dire? Les travailleurs de nuit, ce n'est pas des chrétiens, c'est ça? Il y a un sens, Madame Durand. Non, mon mari a assez travaillé le soir. Non, évidemment. Mais ce matin, on désirerait rencontrer Jésus comme la lumière de nos vies. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jésus, la lumière de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus y affirme « Je suis la lumière du monde ». C'est le soleil! En anglais, ça va bien, ça fait « sun ». S-U-N, puis le fils, c'est S-O-N, pareil, S-O-N. Mais je pense qu'il y a plus que ça dans le Seigneur que d'être un homonyme pour le soleil dehors, l'astre radieux. Dans Jean chapitre 7, jusqu'à Jean chapitre 10, 21, dans l'Évangile, Jésus, il se trouve à Jérusalem. Et il se trouve dans le dernier rassemblement annuel du peuple juif. Ça s'appelle la fête des tabernacles. Les Juifs devaient aller à Jérusalem trois fois par année. Ils commençaient l'année avec la Pâque. C'était leur premier jour, le rappel de leur rédemption. Après ça, ils allaient à la Pentecôte, 50 jours plus tard. Et Après ça, ça allait jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'automne, où il y avait le troisième grand rassemblement. Puis lui, des fois, il durait trois semaines. C'est-à-dire que le premier jour du grand rassemblement, il y avait ce qu'il appelait la fête des trompettes. On sonnait les trompettes, on avertissait aux gens, « Venez, rassemblez-vous pour le grand rassemblement annuel. » Et puis, vers le huitième jour, il y avait le grand jour d'expiation, le Yom Kippour. C'est encore chez les Juifs aujourd'hui. Il y avait le grand pardon, le grand sacrifice de pardon annuel qui se célébrait à notre période. Et après ça, pendant huit jours d'affilée, il y avait la fête des tabernacles. Huit jours de célébration, huit jours d'action de grâce pour les récoltes, pour l'abondance, pour la joie de vivre. Et pendant ces huit journées-là, c'était le party, c'était la fête, c'était le grand rassemblement juif pour la fête qui durait pendant huit jours. Pendant ces huit jours-là, il y avait un temps de communion fraternelle, un temps d'enseignement, et pendant la journée en particulier, il y avait pendant l'heure du sacrifice, il y avait toute une procession. Au Québec, on connaît ça, en tout cas ceux qui ont mon âge un peu plus, il y avait des grandes processions. Ils partaient du temple et ils allaient à la piscine de Siloé avec un grand bol en or. Et il allait à la piscine de Siloé et il allait remplir ça d'eau et il revenait avec joie dans le temple avec ce grand bol rempli d'eau. Et là, ça chantait. Pour le Moyen-Orient, l'eau, là, c'est nous autres, on en a partout, puis on en a trop, puis on est tannés, là. C'est tout à fait différent au Moyen-Orient. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'abondance. L'eau, c'est la production. Alors, quand ils revenaient avec l'eau dans le temple, ils entraient dans le temple, là, les trompettes du temple sonnaient, et là, tout le monde se mémorisait et chantait un chant en particulier de Ésaïe, chapitre 12, verset 3. « Vous puiserez de l'eau aux sources du salut. » C'était un message du salut qui allait venir. Ça, c'était le jour. Mais le soir, c'était une autre affaire. Le soir, nous autres, on a toutes sortes de lumières pour garder la lumière, mais le soir, il fait noir. Hein? Oh, cet été, on était au chalet, puis c'est le fun au chalet en campagne. Quand on fait un feu de camp le soir, puis là, on regarde en haut, puis on voit tout le soleil. Le ciel illuminé, c'est le fun. Mais imaginez-vous à Jérusalem, il n'y a pas de lampe le soir, mais chacun de ces huit soirs-là, il y avait dans le temple des dizaines de torches allumées et ça brillait beaucoup. Et là, on pouvait voir le temple de plusieurs kilomètres de différence, tant les murs en marbre, il y avait de l'or là, alors avec la multitude des torches, ça brillait ça. C'était les feux là, au Québec sur le fleuve là, c'était vous pouvez vous imaginer, c'était brillant partout. Et là à l'intérieur du temple, c'était la fête. On chantait, on dansait, on obéissait à l'ordre de l'Éternel dans Deutéronome 16:15 de se livrer entièrement à la joie. Il y avait un dicton juif dans ce temps-là qui disait « Celui qui n'a pas vu les réjouissances de la fête des tabernacles n'a jamais connu dans sa vie ce que c'est vraiment que de se réjouir. » Vous pouvez vous imaginer, huit soirs au temple, c'était cette grande fête, festivité lumineuse avec la lumière et avec la notion de l'eau qui amène. Jésus, dans Jean, dans cette période-là, il vient à la fête des tabernacles. Et savez-vous ce qu'il fait quand il vient, quand il partage la fête des tabernacles? Soudainement, il s'attribue à lui la réalité profonde de cette joie-là, de cette fête des tabernacles. Il dit, si quelqu'un a soif, on va le lire tantôt, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive, des fleuves d'eau vive vont le remplir. Qu'il vienne à moi, pas au temple, à la structure, qu'il vienne à moi s'il a soif. Un peu plus tard, dans cette semaine-là, il va dire, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il va avoir la lumière de la vie. » Il s'attribue ces symboles de la fête des tabernacles. Ce soir, on va regarder Jésus le bon berger, c'est dans la même période. « Je suis le bon berger » qu'il va mentionner. Et pour prouver la véracité de ses propos, il va rencontrer un aveugle né et il va lui redonner la vue. Mais pas lui redonner, lui donner pour la première fois. Il est un aveugle de naissance. Jésus est venu et l'aveugle né l'a rencontré. Et il est devenu pour l'aveugle né la lumière du monde. Et ce matin, j'aimerais aussi qu'on puisse rencontrer Jésus comme la lumière de nos vies. Et je voudrais en réalité qu'on trouve trois motivations ou trois nécessités. On a besoin de rencontrer Jésus pour qu'il soit notre lumière. Dans quel sens est-ce qu'il devrait être notre lumière, la lumière de nos vies? On va tourner dans Jean, l'Évangile de Jean au chapitre 7. Mais d'abord, on va demander la grâce de Dieu pour qu'il nous conduise dans ces trois nécessités de rencontrer Jésus comme la lumière de nos vies. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on va ouvrir ta parole. Et on voudrait que ce soit elle qui nous conduise, qui éclaire nos cœurs et qui, Seigneur, nous amène à répondre. À répondre avec notre cœur à Jésus comme la lumière de nos vies, comme il a été la lumière de la vie de l'aveugle-né. Nous t'en prions au nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Jean chapitre 7, alors je lui ai dit, on ne lira pas Jean 7, 1 à 10, 21, bien entendu, mais juste quelques versets en cours de route. Jean chapitre 7, verset 37. Alors, le dernier jour, le grand jour de la fête, on est rendu au huitième jour de la fête des tabernacles, c'est le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Un peu plus loin, Jean chapitre 8, verset 12. Il nous a dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et tournez un peu plus loin, Jean chapitre 9, et nous allons lire les sept premiers versets. Jésus vit en passant un homme, oh, je vais recommencer 8:59, juste le verset d'avant. Pendant qu'il était dans le temple, il y avait toutes sortes de frictions. Il y avait des gens qui disaient, ah, ça doit être le Christ certain. Puis il y en a d'autres qui disaient, ben non, ça c'est pas le Christ certain. Puis ben oui, il y a pas personne qui parle bien comme ça. Puis il y avait toutes sortes de discussions, oui puis non. Puis il y avait même pris des décisions, les pharisiens, s'il y en a qui l'identifient comme le Christ, on va le mettre à la porte. Il y avait de la discussion pendant ces 8 jours-là. Et à un moment donné, ça l'a confronté Jésus. Puis Jésus, il va aller jusqu'à dire, avant qu'Abraham fût dans le passé, je suis. Et là, c'était fait. Là, il s'appelait Dieu ben raide. Là, fait que là, ils ont commencé à le courir après dans le temple. Fait que Jésus a dit, ben, je suis pas prêt à mourir tout de suite. Fait qu'il est parti, il est sorti du temple. On est rendu là. Alors, 8:59, là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. C'était correct, c'est pas mal élevé, là. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie « envoyer », il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Trois nécessités de rencontrer Jésus comme la lumière, comme notre lumière, comme la lumière de la vie. Et la première, c'est que Jésus, comme lumière du monde, il vient à nous pour nous offrir le salut. Salut et lumière vont ensemble. L'Éternel est lumière et salut pour ceux qui sont aveugles et perdus. David disait déjà dans l'Ancien Testament, dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Lumière et salut. Dans Jean 9, un peu plus loin, Jésus va dire aux pharisiens qui se pensent qu'ils voient clair, mais qui sont vraiment aveugles spirituellement, il va dire, « Je suis